Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
La lutte contre le chômage, priorité absolue de mon gouvernement pour les prochains 18 mois.
600 jours pour agir et une heure pour convaincre. On va décrypter ensemble le discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi devant l'Assemblée nationale, les annonces, mais aussi le style Castex. Priorité au territoire et au dialogue, mais aussi à l'écologie, transformation de l'économie, fermeté sur les questions sécuritaires. Nous entendrons les réactions à ce discours validé par un vote de confiance suffisamment large. Confortable majorité pour Jean Castex de 345 voix. Le ministre de l'Intérieur était lui dans l'Essonne ce soir après un tir qui a blessé un pompier en intervention.
Je suis venu pour dire aux sapeurs-pompiers tout le dégoût que nous inspire l'acte qui a été commis. Et cette agression qui a été commise sur lui est une agression contre la République.
Le coup d'envoi des soldes. Aujourd'hui, le climat n'est pas forcément propice à dépenser son argent, même si certains ont quand même l'intention de se rattraper.
J'ai acheté un peu de tout, des chaussures, un sac à dos, des vêtements de sport. Avec le confinement, on a été un peu bloqués, donc du coup, on va pouvoir faire les soldes. C'est important avant de partir en vacances.
Europe 1 à vos côtés, dans les magasins, dans les manèges également. Réouverture de Disneyland Paris ce mercredi. Pour la plus grande joie de notre reporter Pierre Herbulot, il nous racontera. La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette hausse de 2,03%. Côté météo, demain, ressortez les pulls. Ce sera une journée aux allures presque automnales, avec beaucoup de nuages, de la fraîcheur et parfois des averses. Le ciel sera gris sur tout le pays, sauf sur le sud-est. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis, vous aimez lire ? Ça tombe bien, nous aussi. Après le journal, on partira à Bordeaux avec Stéphane Place et les bons conseils lecture de la librairie Mola pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un exercice toujours délicat auquel se livrent tous les nouveaux premiers ministres. Le discours de politique générale prononcé cet après-midi par Jean Castex à la tribune de l'Assemblée. Une heure tout pile pour ce baptême du feu dans l'arène politique. Un vrai discours de méthode et une feuille de route. Relance sociale, écologique et territoriale. Validé par un vote de confiance suffisamment large. Une confortable majorité. 345 voix pour. 43 députés se sont abstenus et 177 ont voté contre. Un discours que l'on va détailler bien sûr ensemble dans un instant très riche, très dense et porté par un objectif.
La crise est venue frapper une France en plein doute, une France qui se divise, une France qui se crispe et qui parfois se désespère. Il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. France des banlieues, France rurale, France des outre-mer, France dite périphérique. France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Et ce sera notre première ambition immense, réconcilier ces Frances si différentes, les souder ou les ressouder.
Réconcilier, apaiser la colère, restaurer la confiance, c'est vraiment un message que le Premier ministre a martelé à plusieurs reprises et qui visiblement était très important pour lui. En tout cas, ce discours, ça a été l'occasion pour les Français de découvrir le style Castex, sans fioritures, carré, pragmatique, avec une forme d'autorité naturelle, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, Isabelle, et disons-le clairement, Jean Castex a pris tout le monde de court aujourd'hui à l'Assemblée. Beaucoup prédisaient une déclaration longue, ponctuée de phrases alambiquées, sur un ton morne et professoral. Eh bien, pas du tout. Jean Castex s'est montré précis, accessible. Il ne s'est pas laissé perturber par l'agitation des députés de l'opposition. Il a imposé un rythme sans rupture, dans un timing parfaitement maîtrisé, une heure tout pile. Certains membres de la majorité regrettent qu'il n'ait pas pris plus de hauteur, mais il a bien joué le rôle du Premier ministre, les mains dans le cambouis, très politique. Un examen de passage largement réussi sur la forme.
Alors ça, c'est pour la forme, effectivement, mais il y a aussi le fond, Jean-Rémy.
Oui, avec deux éléments fondamentaux. D'abord, la manière dont Jean Castex, élu de terrain d'une petite commune, veut placer les territoires au cœur de tout. Territoire, il a prononcé 25 fois le mot, presque une fois toutes les deux minutes. Il veut placer le local, le terrain, au cœur de ses décisions, promet que les territoires auront un droit à la différenciation qui sera dans la loi. Enfin, pour rendre tout ça très concret, il annonce un redéploiement des fonctionnaires. Il l'a dit, toutes les créations d'emplois qui seront autorisées dans l'administration l'an prochain seront affectées dans les départements. Fin de citation. Il a même ponctué cette annonce par un « c'est une révolution » et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Et puis, il y a un deuxième élément du style Castex, le dialogue. Il se place en apôtre de la concertation, demande aux députés, même issus de l'opposition, de lui faire des propositions. Il promet de réunir régulièrement les partenaires sociaux, les forces vives du pays. Et ça commencera dès vendredi matin. Réunion à Matignon pour discuter du calendrier et de la méthode des grands chantiers. y compris sur le très difficile dossier des retraites.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, importance des territoires. Donc, dans ce discours de Jean Castex, les départements qui se retrouveront demain au cœur du dispositif de relance de l'emploi dans une forme nouvelle de décentralisation, forcément très bien accueillie par les élus locaux. Écoutez le président d'Hiver Droite du département du Loiret, Marc Godet.
On a des exemples précis. On pourrait essayer d'harmoniser la gestion des EHPAD en confiant toute la gestion au département, mais en ayant aussi toujours l'autorité sanitaire, évidemment, qui resterait du domaine de l'État. On a vu, durant la crise sanitaire, que les départements étaient aussi un échelon tout à fait pertinent pour gérer le quotidien, l'approvisionnement en masques. J'ai l'impression que le Premier ministre essaie de tendre la main aux collectivités locales. Nous devons saisir cette chance-là et restaurer cette confiance, parce qu'elle a été quand même un peu écorchée parfois.
Le président du département du Loiret, témoignage recueilli par Romane Hoquet. Le Premier ministre, qui, on l'a dit, a beaucoup insisté cet après-midi sur l'emploi, lutter contre le chômage, mais sans hausse d'impôts. Et il a redit, Olivier Samin, la priorité des priorités, déjà exprimée d'ailleurs par Emmanuel Macron hier. Cette priorité, ce sont les jeunes.
Oui, il a notamment précisé les contours du dispositif d'exonération de cotisations sociales qui sera mis en place pour les entreprises qui embaucheront des jeunes. Les jeunes en question, ce seront les jeunes de moins de 25 ans, dont le salaire ira jusqu'à 1,6 fois le SMIC, et l'aide que touchera l'employeur sera à hauteur de 4 000 euros par an. Cette exonération s'appliquera dans toutes les entreprises, a dit Jean Castex, pour une durée d'au moins un an. Le gouvernement va par ailleurs muscler l'effort de formation en mettant 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur la table, avec entre autres un abondement du compte personnel de formation pour les personnes qui s'orienteront vers les secteurs en tension.
Et le Premier ministre a aussi fait des annonces à destination des ménages modestes.
Deux annonces. D'abord, l'allocation de rentrée scolaire qui, à titre exceptionnel, sous-entendu cette année uniquement, sera augmentée de 100 euros. Deuxième annonce, dès la rentrée prochaine, le coût du repas au Resto U sera ramené de 3,30 euros à 1 euro pour les étudiants boursiers.
Olivier, le chef du gouvernement, a également précisé les orientations du plan de 100 milliards d'euros annoncé hier par Emmanuel Macron.
Un plan de reconquête économique et territoriale avec notamment 40 de ces 100 milliards qui seront investis pour transformer l'appareil productif et réimplanter en France des activités stratégiques. Le Premier ministre a annoncé entre autres une baisse des impôts de production, impôts qui frappent les entreprises même quand elles ne font pas de bénéfices, et une accélération de la numérisation des entreprises et des administrations.
Dernière question Olivier, c'est la question qui fâche. Comment financer tout ça sans hausse d'impôts ?
Sans hausse d'impôts, ni austérité budgétaire, a dit Jean Castex, car l'une et l'autre ne feraient qu'aggraver les choses. Eh bien, la seule solution qui reste, c'est la dette. Le Premier ministre a précisé que la dette due à la crise Covid sera mise à part. Elle fera l'objet d'un remboursement étalé sur le long terme via une ressource dédiée.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Jean Castex qui s'est par ailleurs montré très ferme cet après-midi sur les questions sécuritaires. Lutte contre les minorités ultraviolentes, création de juges de proximité contre les incivilités au quotidien ou encore lutte contre l'islamisme radical.
La banalisation de la délinquance du quotidien qui exaspère les Français appelle une réponse ferme et sans complaisance.
La fermeté d'un Premier ministre qui n'a pas non plus oublié l'écologie et on sait qu'il était très attendu sur le sujet, avec là aussi des annonces concrètes, Claudia Bertram.
Oui, Jean Castex l'a martelé devant les députés. Son gouvernement de combat aura aussi pour tâche de mettre l'écologie au cœur de son action et des territoires. Le plan de relance sera un accélérateur puissant de la transition écologique, affirme-t-il. Pour cela, 20 milliards d'euros seront mobilisés pour l'environnement et notamment pour la rénovation thermique des bâtiments et les technologies vertes. Dans l'hémicycle, Jean Castex égrène un certain nombre de propositions. Il promet un plan vélo très ambitieux et annonce vouloir faire de l'économie française la plus décarbonée d'Europe. Jean Castex qui dessine sa vision de l'écologie politique, conciliée transition écologique et pouvoir d'achat.
L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte.
Face aux députés, il salue aussi les travaux de la Convention citoyenne pour le climat et réaffirme certaines des propositions des 150 citoyens tirés au sort. Jean Castex qui scande dans l'hémicycle. Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et de la biodiversité.
Les annonces du Premier ministre sur l'écologie, donc avec Claudia Bertram. Les ONG attendent maintenant des précisions sur le budget qui, de toute façon, sera insuffisant. C'est ce qu'estime Clément Sénéchal, le porte-parole climat de Greenpeace France.
Aujourd'hui, l'important, c'est de repositionner notre appareil productif et notamment de fixer des objectifs contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre aux grandes entreprises. Le CO2, ben, il ne tombe pas du ciel, hein, il dépend de la manière dont on organise notre production et notre consommation. Donc il va falloir aller beaucoup plus loin que simplement des investissements.
Le porte-parole climat de Greenpeace France, joint pour Europe 1 par Élise Dangean. Et pour être tout à fait complet sur ce discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi, concernant cette fois la crise sanitaire, Jean Castex confirme chez nos confrères du Parisien, il l'avait évoqué déjà à la tribune tout à l'heure, mais cette fois apparemment c'est acté, il confirme l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos au plus tard à partir du 1er août, ainsi qu'une intensification de la politique de dépistage. À ce propos, le président du conseil départemental de la Mayenne, qui connaît, vous le savez, une recrudescence de cas de Covid-19, réclame un arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Sans attendre, dit-il. Et puis à Montargis, dans le Loiret, le dépistage de grande ampleur mis en place au début du mois a révélé 5 nouveaux cas de Covid-19 sur plus de 5000 tests réalisés. Au total, ce sont donc 55 cas qui ont donc été identifiés à Montargis.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h10 et c'est la suite de votre journal. Comment peut-on vouloir tuer celui qui vient vous sauver ? Indignation unanime après le tir qui a blessé un pompier en intervention hier dans l'Essonne. Il a été blessé à un mollet. La balle a traversé sa jambe alors qu'il intervenait pour éteindre un feu de véhicule à Guinette. C'est un quartier défavorisé de la ville d'Étampes. Ces actes odieux ne doivent pas rester impunis, a réagi le ministre de l'Intérieur qui a rendu visite en fin de journée à ce pompier.
Je suis venu ce soir à Étampes, d'abord pour dire aux sapeurs-pompiers tout le dégoût que nous inspire l'acte qui a été commis. Et cette agression qui a été commise sur lui est une agression contre la République. L'année dernière, il y a eu 2045 pompiers qui ont été agressés. Et c'est 2045 agressions contre la République. La République est partout chez elle, les pompiers sont partout chez eux. Et ceux qui agressent ces pompiers, qui donnent de leur temps, parfois de leur vie, pour sauver les autres, se mettent en dehors de la République. Mon travail, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Je suis venu dire ici que la République ne va pas reculer, que les pompiers ne vont pas reculer, que les forces de l'ordre ne vont pas reculer et que la République ne va pas reculer devant les agressions honteuses qu'ils connaissent.
Le ministre de l'Intérieur, ce soir au micro Europe 1 de Justin Morin, Gérald Darmanin, qui, notez-le, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain à 8h15 avec Pierre de Villeneuve. Un automobiliste de 86 ans, grièvement blessé après une collision mortelle à un passage à niveau aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence. Collision avec le train touristique des Pignes qui relie Nice à Digne-les-Bains. 7 amateurs de sensations fortes et de grands espaces sont morts hier sur les massifs de Haute-Savoie. Une série noire que les secours en montagne expliquent en premier lieu par un manque de vigilance. Au total, ce sont 4 alpinistes, 2 parapentistes et 1 randonneur qui ont perdu la vie lors de 4 accidents distincts en ce 14 juillet. Dans les Pyrénées-Orientales, à Canet-en-Roussillon, un jeune malfaiteur qui s'était fait passer pour un acheteur a volé une voiture avec le bébé qui se trouvait à l'intérieur avant de se faire arrêter à l'issue d'une course-poursuite. Washington annonce ce soir de nouvelles sanctions contre la Chine, sanctions ciblées contre certains employés du géant Huawei. Les États-Unis, vous le savez, accusent l'entreprise d'espionnage industriel. Les Américains qui applaudissent dès demain la décision de Londres d'exclure Huawei de son réseau 5G. Ce soir, la Chine convoque l'ambassadeur des États-Unis pour protester contre ces sanctions. Et puis cela vous a peut-être échappé, et ça peut se comprendre vu le contexte, c'était aujourd'hui le premier jour des soldes d'été, habituellement très attendus, mais reportés cette année en raison de la crise sanitaire, dans une drôle d'ambiance donc, avec la crainte d'une deuxième vague, le retour probable de l'obligation du port du masque à partir du 1er août, et puis également cette prise de conscience des effets néfastes de la surconsommation. Écoutez ce reportage à Roubaix, dans le Nord, signé Maximilien Carlier.
Ça a débordé dans le coffre de la voiture, là. Ça a pu rentrer.
Le masque sur le visage et les sacs remplis de vêtements. Vincent a dépensé 200 euros aujourd'hui.
J'ai acheté un peu de tout, des chaussures, un sac à dos, des vêtements de sport. Avec le confinement, on a été un peu bloqué, donc du coup, là, pouvoir faire les soldes qui ont été décalés dans le temps, c'est important avant de partir en vacances.
Préparer l'été, c'est aussi l'objectif des Belges qui viennent ici à Roubaix. Ils représentent 30% de la clientèle.
Si tu trouves une autre couleur, le même modèle, ça c'est parfait.
Il est confortable, oui. Il est beau, il est pas cher.
On le prend. Les gestes barrières sont là, il y a pas trop de monde, c'est très très agréable.
Très peu d'attente devant les cabines d'essayage, ce qui ne déplaît pas aux vendeuses.
En fait, c'est beaucoup plus appréciable parce que nous, on a beaucoup plus le temps pour le service client, en fait. Pour accueillir en cabine, c'est beaucoup plus fluide, voilà.
Christophe Goré, directeur du centre MacArthur Glen de Roubaix, dresse un bilan après cette première journée.
On s'attendait à avoir une baisse de fréquentation d'environ 30-35%. Et à l'heure où on se parle, je suis à moins 5% par rapport à l'année dernière, au premier jour des soldes. La dépense moyenne augmente aussi. C'est aussi une bonne surprise. Ça ne compense pas la perte du nombre de visiteurs, mais en tout cas, les gens se lâchent. lâche davantage.
Panier moyen autour de 60 euros, c'est 10 euros de plus que les derniers soldes. Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1.
Depuis aujourd'hui également, Disneyland Paris accueille de nouveau les visiteurs, masqués bien entendu. Le parc à thème qui draine 7% des touristes qui visitent notre pays était fermé depuis le 14 mars. Pierre Herbulot, vous y avez passé la journée et un peu comme les soldes, ça n'était pas vraiment la bousculade en ce mercredi.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'espace, beaucoup d'espace. Très loin d'une journée de vacances d'été classique chez Mickey, il n'y a quasiment pas d'attente du tout aux attractions, 10 minutes en moyenne, alors les visiteurs en profitent le plus possible.
Trois tours du grand...
Space Mountain.
Et après, j'ai fait les petites voitures, on a fait plein d'accidents après, on rentre.
Le Big Thunder Mountain, Phantom Manor et Peter Pan, qui est un grand succès. Et là, 5 minutes, c'était paradis.
Pour certains, la réouverture à faire, c'était le Château de Versailles ou le Musée du Louvre. Pour Christiane, c'était Disneyland Paris. Elle a posé sa journée, réservé son ticket, obligatoire désormais, et fait la route depuis Lille ce matin pour découvrir le parc version post-Covid.
Super. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est bien organisé, franchement, super contente. Oui, bien, les marquages au sol, le gel hydroalcoolique, la sortie à l'entrée des attractions aussi. Franchement, bien, les barrières, non, c'est assez fluide.
Plus que fluide même, le dispositif sanitaire paraît presque disproportionné. C'est l'heure de la magie, indique un panneau devant le château de la Belle au Bois Dormant. Le tour le plus spectaculaire, c'est celui du coronavirus qui a rendu presque désertique le parc d'attractions le plus fréquenté d'Europe.
Pierre Herbulot qui a visiblement passé une bonne journée parmi les tout premiers visiteurs de Disneyland Paris qui a donc rouvert ce mercredi. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Anissa Haddadi pour demain. On le disait tout à l'heure dans les titres, ce sera une journée nuageuse.
Oui, c'est vrai que ça ressemble à une journée plutôt automnale, hein, une journée triste ou nette. Demain, Isabelle, nous avons un flux humide et frais qui se maintient sur la France encore demain. Le ciel est gris sur tout le pays, sauf sur le sud-est, où tout le bassin méditerranéen sera sous le soleil demain, grâce au Mistral et à la Tramontane qui chassent les nuages encore demain. Mais attention, du coup, ça souffle jusqu'à 60 km/h et ça rafraîchit bien la mer. Dans le nord-est et le Pays basque, la journée commence avec des toutes petites pluies. Et puis dans l'après-midi, c'est sur les frontières du nord-est que vous aurez encore de l'humidité. En revanche, le soleil fera quelques percées sur la côte atlantique. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle pour demain après-midi si vous comptez aller au bord de l'eau. Les températures, elles sont en dessous des moyennes de saison, hein, avec 12 à 16 degrés en général demain matin, jusqu'à 20 au bord de la Méditerranée. Et puis au meilleur de la journée, 20 à 24 degrés seulement au nord, 20 pour Cherbourg et Metz, 22 à Besançon et La Rochelle, 24 à Paris et Limoges. Nous aurons 23 à 28 degrés en moyenne sur toute la moitié sud du pays, avec 23 à Nice, 27 à Ajaccio et 28 à Carcassonne. Et puis, toujours au bord de la Méditerranée, des températures élevées au-dessus de 30 degrés, avec 30 à Marseille, 32 à Nîmes et Montpellier. Un mot rapidement, Isabelle, parce qu'on pense déjà à ce week-end du mois de juillet, qui sera peut-être synonyme pour vous du début des vacances. Eh bien, sachez que ça s'arrange. Alors, vendredi, nous aurons un peu plus de soleil sur l'ensemble du pays. Et samedi et dimanche, le ciel sera complètement dégagé, ou presque, avec des températures qui vont fleurir avec les 30 degrés.
La météo d'Anissa Haddadi qu'on écoute toujours avec attention, surtout quand on est à quelques jours des grandes vacances. Et dans un instant sur Europe 1, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. À tout de suite.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et il est 22h18, merci à vous d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs cet été, c'est l'heure de la chronique Un livre pour l'été qu'Europe 1 vous propose en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Grâce à notre correspondant, bien sûr, Stéphane Place, objectif, vous aider à choisir le ou les livres qui vous accompagneront pendant vos vacances. Avec ce soir un immense coup de cœur des libraires pour un roman qui a connu un immense succès outre-Manche et qui est enfin traduit en français. Ça s'appelle « Été anglais ».
Si vous avez aimé la série Downton Abbey, vous allez adorer Été anglais, premier tome d'une magnifique saga familiale qui se déroule dans le Sussex en Angleterre, dans l'immense propriété des Casalet. Nous sommes en 1937, le monde gronde, et cette famille de la haute bourgeoisie se retrouve au grand complet. Jardinières, femmes de chambre, cuisinières sont sur le pont, le quotidien est rythmé par les balades à cheval et les parties de tennis. Le soir venu, la musique du gramophone accompagne les veillées. Dans ce cadre idyllique, surgissent néanmoins les inquiétudes, les non-dits. Marie-Aurélie Buffet, libraire chez Mola.
C'est le livre de votre été. Tout est parfait. À la fois les personnages, à la fois la localisation. On est dans le Sussex, dans une grande famille bourgeoise anglaise qu'on adore. Une vingtaine de personnages de tous les âges. Et chacun est extrêmement bien croqué. De page en page, pendant près de 500 pages quand même. On est à l'aube de la guerre. Deux des fils sont des rescapés de la Première Guerre mondiale, des tranchées. Un, notamment, en a gardé des séquelles terribles. Et évidemment, la Seconde Guerre mondiale, Hitler, la montée du nazisme pointe son nez et commence déjà à bouleverser l'univers de cette famille. D'abord en termes d'idéologie politique, et puis effectivement, est-ce qu'on pourra être là tous ensemble l'été prochain ?
Ce grand récit que l'on doit à Elizabeth Jane Howard est devenu un classique au Royaume-Uni. Mais il aura fallu attendre pratiquement 60 ans la traduction française de la saga des Casalets, publiée aux éditions de la Table Ronde, que dirige Alice Déon.
Elizabeth Jane Howard a une incroyable liberté de ton, en fait. Elle s'interdit rien. On a beaucoup dit que c'était inspiré de sa vie à elle, de sa famille. Et il y a le personnage qui lui est le plus proche, c'est Louise, qui veut être actrice. Et c'était le cas d'Elizabeth Jane Howard. Et souvent, quand je lis, quand je retravaille les traductions et tout, chaque fois, on se remet, le lecteur aussi, je pense, se remet dans la tête de chaque personnage. Je crois que c'est ce qu'elle a fait en écrivant aussi. C'est qu'elle a quasiment joué les personnages au moment où elle les écrivait. Elle incarne chaque personnage à mesure qu'elle l'écrit. Les gens sont réunis dans un endroit qu'ils connaissent et qui leur est familier, mais normalement ils ne vivent pas à l'année ou pendant plusieurs mois avec ces mêmes personnes-là. Donc il y a ces tensions-là qui arrivent, en plus des tensions et des incertitudes du monde extérieur.
Étés anglais, c'est le premier tome de la saga des Casalets et que l'on peut donc dévorer cet été en attendant la parution du second tome en français, qui sera disponible le 8 octobre prochain.
La chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc pour une autre découverte demain, même heure. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, la bonne idée. Tous les soirs avec vous, Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau, une initiative à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas.
Bonsoir.
Vous êtes le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Demain va se tenir le e-pèlerinage en anniversaire. C'est l'anniversaire de la Vierge Marie demain, c'est ça hein ?
C'est l'anniversaire de la dernière apparition de Marie à Bernadette qui avait lieu le 16 juillet 1858.
C'est votre façon à vous de continuer à faire vivre ce lieu sans pèlerins ou avec moins de pèlerins en ce moment ?
Ce premier pèlerinage mondial digital est effectivement une façon de permettre à tous ceux qui n'ont pas pu venir à Lourdes d'être en communion de prière avec le sanctuaire. Nous savons bien que le monde a besoin de Lourdes et tous ceux que nous avons vécu pendant le confinement où nous avons reçu plus de 130 000 intentions de prière montrent bien que le monde a besoin de Lourdes. Et aujourd'hui, Lourdes a aussi besoin du monde pour être aidé et à se relever et à préparer l'avenir. Mais c'est une journée de communion. Dans l'espérance, nous pensons que la souffrance et la maladie n'auront pas le dernier mot.
Parce que Lourdes, c'est combien de pèlerins par an ?
Lourdes, c'est 3 millions de pèlerins et de visiteurs chaque année qui viennent de tous les pays du monde, de tous les continents. Et cette année, nous en aurons extrêmement peu.
Bien sûr. Et Lourdes aussi, il faut le rappeler, c'est 320 salariés, c'est ça qui travaille auprès de vous ?
Oui, c'est 330 salariés, 330, c'est 50, plus de 50 hectares à entretenir, des trois basiliques, 20 lieux de culte. Donc c'est un énorme, c'est un complexe important. Mais c'est surtout un lieu où les gens affluent du monde entier parce qu'ils y trouvent là une espérance, une source de paix. Ouais. Et c'est ça que nous voulons retrouver demain et que nous voulons permettre à d'autres de vivre les mois qui viendront.
Donc demain, c'est 15 heures de live en 10 langues sur Lourdes TV, sur Facebook également.
Oui, bien sûr, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, retransmis par différentes télévisions du monde entier pour que le maximum puisse s'associer à cet événement.
Sûr. Merci à vous, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Belle journée à vous demain.
La bonne idée, c'est tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, on jettera comme tous les soirs un œil sur les unes de la presse. On va beaucoup reparler du discours de politique générale de Jean Castex, mais on va d'abord marquer ensemble une petite pause musicale en compagnie de Lady Gaga. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Et bien entendu, la plupart de vos journaux reviennent sur le discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi. Castex marque son territoire pour Libération. Le chômage, priorité absolue. 40 milliards pour l'industrie. Une loi contre les séparatismes. Le Premier ministre a détaillé devant les députés le programme de ses 600 jours mettant en avant la proximité. Castex fixe le tempo pour les Échos. Le Premier ministre dévoile les grands axes du plan de relance. Castex fait le pari des territoires. territoire pour Ouest France. Emploi, autorité de l'État, Castex impose sa marque, écrit le Figaro. Jean Castex, le Premier ministre des gens. Pour le journal L'Opinion, le chef du gouvernement a livré sa feuille de route pour les 600 derniers jours du quinquennat. Tout doit partir, on le disait, des territoires pour bousculer un État central qui ne s'est pas adapté. Un air de déjà-vu, écrit quant à lui Pascal Ratineau dans le journal La Montagne. Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau, je rêve de villes où les tensions sont moindres, je rêve tout simplement d'un pays ambitieux dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Non, vous n'avez pas entendu ces mots dans la bouche de Jean Castex cet après-midi, car ils ont été prononcés par Michel Rocard devant cette même Assemblée nationale en juin 1988 lors de son allocution de politique générale. L'analogie dans le discours est frappante avec celui prononcé aujourd'hui par le nouveau pensionnaire de Matignon. Preuve que les maux dont souffre notre pays ne datent pas d'hier, ils ont juste empiré. Tout autre sujet, comment honorer les morts du Covid-19, s'interroge le journal La Croix, alors que l'Espagne organise demain une cérémonie nationale en souvenir des victimes de la pandémie. Ailleurs dans le monde, des initiatives fleurissent pour célébrer les défunts. Comment éviter une nouvelle vague, s'interroge pour sa part l'Humanité. Tests, masques, lits, l'exécutif fait-il tout ce qu'il peut pour affronter un éventuel regain de la pandémie? Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Le 39-21 pour vous joindre bien sûr. Et moi je vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'info.
Exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.